Bonjour à tous, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique un personnage que vous connaissez tous, Flo Descailloux, une complicité fidèle, toujours fidèle au poste. Et aujourd'hui, nous allons parler de Paris, d'un Paris mystérieux, d'un Paris à découvrir, comme on l'aime. Nous recevons Pacôme Thielman, qui vient de publier aux éditions du Seuil, Paris des profondeurs. C'est un livre, c'est un livre gourmand, gourmet. C'est comme un feuilleté, vous voyez, vous découvrez comme ça des couches, des stratifications de Paris. Alors, Pacôme Thielman, Paris des profondeurs, d'abord le titre.
Oui.
Moi, j'ai considéré que c'était un livre, c'était comme un voyage dans l'espace-temps. C'est-à-dire, c'est vraiment... Et Paris des profondeurs, tout d'un coup, vous qui êtes vidéaste, d'ailleurs, on prend un peu de recul. Il y a des jeux de regard. On se décale. Ou on se décale. Peut-être un décalage comme ça, horaire. Que j'ai...
C'est pas mal, oui. Oui, décalage horaire dans Paris. C'est un peu le point de départ, de toute façon, le point de départ de l'écriture du livre, que j'ai essayé de reproduire plus ou moins dans le livre lui-même, parce que le livre commence dans la rue qui est la rue Pierre-Nicole. La rue Pierre-Nicole, elle est située, pour ceux qui la connaissent pas, en fait, elle part plus ou moins de la rue Saint-Jacques, enfin, elle fait une espèce de petit crochet comme ça, et elle tombe sur le boulevard de Port-Royal. Donc, c'est une rue qui est... qui devient parallèle à la rue Saint-Jacques, en fait... puisque c'est une espèce de rue encourbée comme ça, mais toute petite. Et en fait, le point de départ de l'écriture du livre, il y a quelques années, enfin il y a 5 ou 6 ans au moins, peut-être un peu plus, je suis plus capable de savoir exactement. J'étais retourné dans cette rue. J'avais pas fichu les pieds depuis mes 17 ans. Mais quand j'avais 17 ans, j'allais au collège Sévigné qui était là-bas pour préparer mon bac. Et j'y retourne et je retrouve une entrée d'immeuble que j'avais complètement oubliée. Il faut dire aux auditeurs que j'ai 47 ans, donc c'était il y a 30 ans. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone portable connecté avec la fibre, etc. Donc, quand on voyait un truc bizarre, on voyait un truc bizarre, mais on pouvait pas exactement tout de suite le situer, savoir ce que c'était, etc. Prendre une photo et tout ça. Donc, en fait, il y avait cette entrée étrange d'immeuble, très étrange, avec des fausses ruines, avec comme une espèce de colonne dorique cassée, une fontaine cassée, une entrée de porche, et puis à l'intérieur, un mur peint. Une fresque faite dans le style des fresques de Pompéi, avec des éléments qui rappelaient la maison des Vétis de Pompéi et tout ça, avec peint sur la fresque deux touristes assis avec une espèce de coca du futur sur des ruines, enfin dans un palais donnant sur une espèce de ville détruite, et avec toutes les figures, on va dire sacrées du monde moderne, qui vont du Coca-Cola au Mickey, au cours de la bourse, au tennis et tout ça. Et en fait, cet endroit-là hyper bizarre, où je passais devant tous les jours, d'un coup je le revois, et quand je le revois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais c'est vrai, ça me fascinait, je le voyais tous les jours, je me demandais ce que c'était, j'avais aucune espèce de début d'explication, et là je le revoyais, et là je me disais, mais je vais pas le lâcher, je vais essayer de comprendre ce que c'est. Et à partir du moment où j'ai commencé à enquêter là-dessus, tout s'est dévidé comme une espèce de pelote de laine. C'est-à-dire que déjà, premier truc complètement dingue, j'ai découvert que sur la même rue, mais inaccessible au public, il y avait la première crypte de Paris, qui est la crypte où Saint-Denis allait baptiser les premiers Parisiens, les pauvres. et puis le pauvre aussi, il s'est fait attraper par le préfet Fessenius, et puis il s'est fait quick en haut de Montmartre après. Mais bon, c'est là le point de départ de Paris, du Paris chrétien. Et donc il y avait d'un côté cet immeuble moderne où, en gros, c'était post-Paris, quoi. C'était une fois Paris détruit, machin. Et on avait et ce premier truc a commencé, ça m'a fichu un putain de vertige. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai commencé à enquêter sur l'entrée d'immeuble. J'ai rencontré la personne qui l'avait créé, une plasticienne française d'origine vietnamienne qui s'appelle Ngoc Duong, et qui à l'époque sortait tout juste des arts déco au moment où elle avait fait cette entrée d'immeuble en 78-79. Et donc Et en discutant avec elle, les systèmes de correspondance n'ont pas cessé de... Enfin, en gros, ouais. Je peux
donc
pas
c'est un
raconter,
jeu de mais... résonance, cette
mais voilà. Ouais. Et donc, du coup, Paris des profondeurs, bah oui, j'étais plongé dans un Paris sous Paris, ou un Paris caché sous Paris, ou une espèce de Paris derrière Paris, ou un double Paris. Enfin, disons que je croyais connaître ma ville, je la connaissais pas du tout. Je croyais connaître mes lieux, je les connaissais pas du tout. Je croyais me connaître, évidemment, je ne me connaissais pas du tout. Enfin, bref, en gros, c'est une aventure de la redécouverte de Paris. Et elle est aussi vraiment implémentée parce que on peut dire ça. Je vous raconte des histoires qui datent de bien avant le Covid et le confinement, mais la véritable écriture du livre, on va dire le point de départ narratif du livre, c'est la sortie de confinement et en gros bon. Jeté dans la ville avec un désir de vouloir se la réapproprier parce qu'on en avait été privé pendant plusieurs mois et encore dans une année où il n'y a pas de touristes parce que depuis les touristes sont venus. Ouais. Mais pendant un an et demi, on a vécu une espèce de période bénie, très heureuse où les gens avaient peur de venir dans Paris parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid. Les Américains avaient peur d'attraper le Covid. Je sais pas quoi. Bref, on comprend l'idée. Et donc, du coup, on avait la paix. Et du coup, on pouvait vraiment de nouveau avoir une espèce de vie dans la ville que l'omniprésence des touristes rend plus difficile. Voilà.
Paris, page blanche, si on peut dire.
Et c'est ça.
Faire page blanche, et en même temps, c'est un livre, l'intérieur du livre, le livre de Paris.
Oui.
Il y a ce côté archéologique chez vous, pas comme tellement, ce côté déchiffrement. Donc, Paris des profondeurs, cette ville pivot sur laquelle l'histoire a tourné et sur laquelle elle tournera encore, ça c'est une phrase qu'on peut lire dans votre livre, et cette citation de Victor Hugo, qui, je crois, figure en couverture, qui regarde au fond de Paris, a le vertige. Donc, c'est les abîmes de Paris, c'est-à-dire c'est... C'est un peu, vous avez écrit un autre livre sur l'infini, sur cette notion d'infini.
Oui,
donc c'est
oui.
un peu l'anneau de Moebius, comme ça, qu'on décline à l'infini, avec des lignes directrices. Il y a sept écrivains, sept poètes visionnaires qui guident un peu vos pas. Victor Hugo, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, le comte de Lautréamont, Stéphane Mallarmé et Alfred Jarry.
Ouais.
Donc c'est un peu cette présence poétique qui vous guide. C'était important pour vous d'avoir ce jeu de présence.
Alors, ils ont été choisis, c'est pas juste ma subjectivité qui les a choisis. En fait, c'est aussi par un système de résonance et de déduction. C'est-à-dire que, premier point, je me rends compte que il y a une relation, on va dire, qui est dite d'ailleurs par Victor Hugo, entre Paris et le fait révolutionnaire lui-même. Le fait révolutionnaire lui-même entraîne une poétique propre, poétique nouvelle, qu'on peut dire à la fois politique et spirituelle. Ça, c'est vraiment dans le texte sur Paris de Victor Hugo, où c'est dit, ça vient de lui d'ailleurs, je le reformule, mais en fait, c'est lui qui dit que c'est là où l'histoire a, la ville où l'histoire a tourné.
Ouais.
Donc moi, je dis que l'histoire retournée retournera encore. Mais lui dit, c'est Paris est la ville sur laquelle l'histoire de l'humanité a tourné. Parce que pour lui, c'est la Révolution française. Et la Révolution française définit Paris en aval et aussi en amont. C'est-à-dire que tout mène à cet endroit et tout repart de cet endroit. Tout mène à cet endroit, Victor Hugo, il le fait très bien dans son texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment après tout repart. Et si j'ai choisi ces poètes-là, c'est parce qu'il y a pour moi une relation très forte entre le fait révolutionnaire et... on va dire, la spiritualité révolutionnaire telle qu'elle pouvait avoir été amorcée parallèlement à la naissance du christianisme par ceux qu'on a appelés les gnostiques, ceux que les chrétiens ont appelés les gnostiques. C'est-à-dire ceux qui ont voulu suivre Jésus, mais en tant que Jésus voulait les libérer de toute église. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'il y a eu au moment de... on va dire le moment Jésus, quoi, je sais pas quoi, l'époque où Jésus est arrivé, il y a des personnes qui ont voulu le suivre, pas pour recréer une nouvelle religion. C'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui tend à penser que c'était pas le but. Donc, plutôt que de créer une nouvelle religion, essayer de voir si on pouvait s'émanciper du fait religieux lui-même à travers une spiritualité qui ne prend plus la divinité comme une espèce de petit papa qui nous tape sur les doigts et qui nous dit « fais comme ci, fais comme ça, etc. » mais comme la divinité, comme un miroir de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Et la part de divinité dans l'humain, dans les textes qu'on a dit gnostiques, elle est exprimée par Jésus comme ça. « Je ne suis pas venu à vous en seigneur, mais en soutien, je suis votre frère secret. C'est vraiment l'idée de la fraternité et non pas l'idée de la hiérarchie, machin. Et cette vision de la spiritualité, il y a un texte très intéressant de André Breton, qui est le texte, bon, qui pour plein d'autres raisons me passionne, qui est le texte qu'il écrit pour démontrer quand il y a ce faux Rimbaud, l'achat spirituel qui sort, que ce Rimbaud n'est pas de Rimbaud, etc., qui s'appelle Flagrant délit. Mais dans Flagrant délit, en fait, il reproduit la dépêche AFP qui annonce la découverte des textes gnostiques dans le désert de Nag Hammadi, en disant « c'est peut-être là qu'on trouvera la source de ce qui n'a pas cessé de nous mobiliser, nous, de toute notre vie, notre modernité, notre tout ça, à travers ces grandes figures qui étaient Victor Hugo, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, le comte de Lautréamont, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud et Alfred Jarry. Pourquoi il dit ça ? Parce que pour lui, et il n'a pas tort, hein, Rimbaud, Breton, il y a des éléments qu'il peut percevoir d'une forme, on va dire, de spiritualité anti-institutionnelle qui peut s'exprimer, et aussi de détestation de la forme seigneuriale de Dieu ou du démiurge, ce que les gnostiques appellent le démiurge, vraiment le gros con, et qui est vraiment présent, je vais dire, chez Rimbaud, chez Lautréamont, quand ils attaquent la figure divine.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que votre livre, c'est Les Mystères de Paris.
Oui, pardon. Alors,
on va s'égarer.
Je suis désolé. Je termine et on va comprendre. J'ai pris ces sept figures-là parce que Breton, à ce moment-là, les a vraiment spécifiées comme celles qui ont construit notre modernité. Et j'ai essayé de voir, et pour moi, ça marchait, qu'elles formaient à l'intérieur de Paris une carte dans laquelle on pouvait voyager. Mmh. Et cette carte-là nous amenait à ce que pouvait être le Paris post-révolutionnaire. Mmh. Et que ce soit les endroits où a vécu Hugo, que ce soit les lignes de force de la vie de Nerval, que ce soit les zigzags étranges de la présence de Lautréamont, ou que ce soit même la présence paradoxale, hostile et contrainte de Rimbaud. Et bien sûr l'espèce de spirale ou de colimaçon d'étrange escargot que fait Baudelaire en partant de l'île Saint-Louis et en traversant, en allant dans de plus en plus pauvres de Paris juste à côté de la gare Saint-Lazare où il va partir après à Bruxelles. Tous leurs parcours dans Paris sont des parcours qui vont raconter une histoire non seulement de Paris mais une histoire de l'homme émancipé. Mais avec les problèmes que pose l'émancipation, rien n'est réglé. Mais c'est une aventure politique totale.
Ah, c'est un jeu de loi, on pourrait dire. Hein,
oui, le jeu de loi, l'image du jeu de loi, moi, me plaît à 100%.
Et aussi le jeu de cartes, parce que dans le jeu de cartes, vous parlez du tarot à un moment donné, la figure du tarot. On a l'impression que ces écrivains pourraient figurer sur un jeu de cartes littéraire. Oui. Et l'Égypte est très présente dans votre livre. Votre mère est égyptienne.
Oui.
On retrouve Paris appartient à Isis et Isis appartient à Paris, dites-vous. Oui. Par exemple, quant aux sphinx, ils sont littéralement partout. On les retrouve dans le jardin des Tuileries, sur la place du Châtelet, au palais de la Légion d'honneur, sur la porte du lycée Massillon, à l'hôtel Sully, et sur la façade du Sphinx Hôtel, 106 boulevard de Magenta. Une façade dont les têtes de sphinx sont toujours visibles, bien que le bâtiment s'appelle désormais Hôtel Libertel. Alors, il y a toujours une sorte chez vous de... Je dirais que vous êtes un archéologue du merveilleux. Du merveilleux de Paris. Parce que...
Avec plaisir.
Il y a l'ancien, le nouveau. Vos origines égyptiennes, on sent que ça joue. Parce vous parlez aussi, c'est au Sphinx que Nadja s'installe quand elle arrive à Paris. Et c'est dans ce quartier qu'elle croise la route d'André Breton le 4 octobre 1926. Donc, les dates se répondent les unes aux autres.
Oui.
Et ça, comment... Bon, d'abord, comment est venue alors l'idée de ce livre? C'est là, c'est la promenade, la redécouverte de Paris, ça vous l'avez dit.
Oui.
De faire une sorte de flânerie, parce qu'il y a des photos aussi, il faut qu'on en parle.
Oui, tout à fait. Ah bah, en fait, j'ai fait un livre qui appartient à une... on va dire, une haute tradition. Mon livre est un petit livre, mais la tradition, elle est grande. C'est les livres de balades dans Paris.
Ouais, ouais.
Et évidemment, Aristide de la Bretonne, Sébastien Mercier, l'immense Léon-Paul Fargue, etc. etc. On a un grand nombre. Bon, mon grand amour, Nerval, on peut dire, a fait aussi, si ce n'est des livres, au moins des textes de Flânerie dans Paris ou de balades dans Paris. C'est quelque chose qui a, comment dire, inscrit dans le cœur même de l'expérience de Paris et l'expérience de la balade ou de la flânerie. Et du coup, écrire sur Paris, pour moi, ça n'avait pas de sens de le faire autrement que en le faisant comme une balade. Quand bien même j'ai eu dedans à gérer beaucoup, on va dire, de faits historiques ou de documentation, mais ça a pu s'organiser comme ça. C'est-à-dire que, en gros, quand on fait un livre, enfin je dirais, quand je fais un livre, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que le livre va être fait. Je sais pas comment dire ça autrement.
Comment il va venir à vous.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne pour lui. J'essaye pas de forcer une forme. Donc sur Paris, même si j'étais parti peut-être au départ, oui forcément j'étais parti au départ quasiment simplement en racontant des trucs sur Paris. Mais très vite le livre, il voulait s'écrire autrement.
Il y a des petits carnets, comment vous écrivez?
Ah oui, bah tout. Enfin, comment dire, je suis un peu boulimique de technique, donc j'ai des petits carnets. Il m'est même arrivé là de faire des enregistrements sur mon téléphone quand j'étais en balade pour me souvenir de trucs. Donc
ouais.
Voilà, donc j'écrivais surtout en rentrant. Enfin, souvent, vraiment le gros truc, c'était de partir en balade. Et en retour de balade, écrire. Donc, il y a un moment où je devais vraiment me restreindre. Je me disais, bon, là, ça y est, il est 15h, je ne sais pas quoi. Rentre maintenant, parce que sinon, tu n'auras pas terminé d'écrire ce soir, que tu devras te coucher, ce que tu as vu aujourd'hui. Donc, je voulais écrire dans la foulée, un peu comme quand le matin, on doit écrire ses rêves, parce que sinon, on les oublie.
Ouais,
bon, les balades,
fait.
C'est un peu pareil. Hein. Donc, si je voulais me souvenir un peu de certains petits détails, etc., il fallait que je rentre assez vite pour les noter. Donc,
et puis, il y a cette idée...
Vous
avez noté.
Oui.
Il y a cette idée de plonger, par exemple.
Oui.
Et vous remontez à la surface. C'est pour ça, Paris des profondeurs.
Oui.
C'est un secret en pleine lumière, me dit, en remontant à la surface. C'est une épiphanie sculptée à même la pierre. Ce n'est pas Paris, c'est son double. Un sanctuaire présent, mais inaccessible, recouvert par la modernité, mais continuant à orienter nos jours et à hanter nos nuits. Un temple dressé à ce qui est incompréhensible, inconnaissable et indicible, un hôtel dédié à la ville inconnue, Agnostos Paris. L'inconnu de Paris. Et c'est
oui,
ça qui...
Oui.
Parce que moi, je vous ai dit d'ailleurs en antenne tout à l'heure, on guette Belphégor.
Oui, un petit peu, oui, bien sûr.
Il y
a un côté comme ça. Bah oui, Fantomas.
Ouais,
aussi.
Fantomas. On guette des personnages... qui font le charme de Paris aussi,
qui sont toujours
là, qui sont toujours vivants. Et on sent, pas comme tiellement, que... Voilà. Alors, il y a aussi des rapprochements sur des... Comment dire? C'est pas une notion de croyance, pas vraiment de superstition non plus, mais de signe, voilà.
Oui.
J'ai cru voir dans l'exposition Toutankhamon le signe qui révélait l'abjection de notre temps. Comment souhaitons, au nom de la science et de l'art, priver un homme de sa dernière demeure et des instruments de son salut? Et vous ajoutez plus loin, il avait raison, pharaon ou pas, on ne déterre pas un mort.
Oui.
Mais vous expliquez qu'après, voilà, il y a eu des événements historiques.
Alors ça, c'est la phrase la première phrase que vous avez citée, c'est celle d'un poète que j'adore, qui n'est pas parisien, lui par contre, qui est un poète marseillais, qui est Christian Gabriel Guèze-Ricord, qui est un immense poète visionnaire, et qui avait été choqué par une exposition Toutankhamon. Et je reprenais sa phrase, et pour ça je disais il a raison, parce que en fait, quand il y a eu la nouvelle exposition de Toutankhamon, ça c'était l'année des Gilets jaunes,
dont vous parlez d'ailleurs. Hein,
oui, ils sont assez présents dans le livre.
Ouais.
Bah, le livre prend acte des 5-6 dernières années, quoi, en même temps, donc c'est normal. Et cette année-là, enfin la semaine où ils ont amené les les restes de Toutankhamon, là, sont...
les résidus, sont, vous avez
les résidus, oui, voilà. Les,
ce les, qui les, reste. Voilà.
Voilà, les restes.
La momie.
La momie. Voilà. Le truc qu'on ne doit pas sortir de terre, hein, en gros. Ça, ils n'ont jamais voulu comprendre. C'est quand même comique, vous avez Toutankhamon, la malédiction de Toutankhamon.
Mais oui,
bon,
oui,
bah,
oui.
C'est les explorateurs, là, ils ont sorti le truc, ils sont tous morts dans les 3 mois. Mais quand même, depuis, on continue à s'amuser, à la balader, en se disant, cette fois-ci, ça marchera. Bon, très bien, ils l'ont amené à Paris, qu'est-ce qui s'est passé la semaine ? Non, mais la semaine où il est arrivé, Notre-Dame a brûlé. Non, mais je trouve fou qu'on ne, même, on ne le mette pas en relation. Alors, il y a eu 3 choses. Hein. Il y a eu le jour même où il y avait eu l'arrivée de la sépulture de Toutankhamon, il y a eu des milices qui sont allées, qui se sont formées pour aller détruire des maisons de Rome à Saint-Denis. À Saint-Denis, on a, suite à une fake news qui avait circulé sur les réseaux sociaux, qui était comme quoi des Roms avaient enlevé des petits-enfants. Et alors, c'était évidemment un truc complètement con, mais ça n'empêche qu'on est allé leur casser toute leur maison, et évidemment, quand on casse la maison de Rome, derrière, personne ne vient, enfin, comment dire, il n'y a pas d'assurance, hein. Donc ils les ont perdus, hein. Et puis point barre, et même s'ils étaient innocents. Donc c'est vraiment une abomination. Et cette même semaine, il y a eu ça, et il y a eu et Notre-Dame a brûlé. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre ça en relation, surtout au sein de l'année des Gilets jaunes. Souviens que les Gilets jaunes, l'année des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs choses qui ont été très très marquantes, mais on va dire, si on est un littéraire, ce qui est marquant, c'est que l'année des Gilets jaunes, Victor Hugo est revenu très en avant. Et on parle évidemment Les Misérables. Et donc Les Misérables, et puis avec Notre-Dame qui brûlait, Notre-Dame de Paris. Donc ça faisait vraiment une espèce de confrontation extrêmement forte et extrêmement brûlante qui pour moi faisait sens. Il y avait un truc de l'ordre de l'auto-immolation de Notre-Dame. Notre-Dame c'est pas un accident. Elle s'est flambée de rage devant à la fois l'injustice faite aux Gilets jaunes, l'injustice faite aux Roms et le sacrilège fait à un mort, pharaon ou pas, quoi. Mais laisser cette putain de sépulture dans le sol et arrêter de la balader à travers le monde. Moi, à chaque fois, j'en ai vraiment mais des haut-le-cœur.
Bon. C'est vrai que personne n'en parle. C'est vrai que personne n'en parle, mais, oui, bon, mais vous, voilà. En fait, vous établissez des liens voilà, entre oui. tel. Vous avez une lecture avec votre culture qui est vivante et vous nous donnez à lire donc le Paris actuel. Alors, Nerval, on va commencer par lui, parce que c'est quand même, à mon avis, il est très important dans votre livre,
Incomptiennement. Et puis pour moi, en général,
voilà.
De toute
bien
façon,
que
bien sûr.
L'ancienne déesse des Parisiens, Isis, eût été remplacée par Sainte Geneviève comme protectrice et patronne, on vit encore au XVIe siècle une image d'Isis conservée par Mégarde sous le porche de Saint-Germain-des-Prêts. Donc ça, c'est Nerval.
Ouais. Voilà, hein, oui, c'est Nerval qui parle. Et en fait, Nerval est le... Et des poètes ou des écrivains sur Paris, celui qui a à nombreuses reprises revenu sur l'identité isiaque de Paris. Bon, c'est pas étonnant, hein, mais peut-être que c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler parce que c'est pas quelque chose de très très connu. Mais dans la question de l'étymologie même du nom de Paris, très tôt, on a que ce soit vrai ou pas, hein, on a supposé que le nom Paris venait de Par Isis ou Bar Isis. Par Isis ou Bar Isis, c'est-à-dire semblable à Paris ou la barque d'Isis, semblable à Isis ou la barque d'Isis. C'est pas très bien. Mais en tout cas, que Isis était dans le nom Paris. Et ça, c'est dès le premier texte sur Paris, qui est le texte de Abon de Saint-Germain, un moine du 10e, 12e siècle, je sais plus, enfin bon,
dans
ces zones-là,
quoi.
Voilà. Qui a écrit un texte qui s'appelle de la guerre à Lutèce. Et là-dedans, il dit déjà, Lutèce, maintenant ton nom c'est Paris, et c'est normal parce que tu es semblable à Isis. Bon, c'est déjà très curieux. Et puis ensuite, dans un texte qui date de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, qui est le premier guide de Paris, en fait, texte de Gilles Corozet, on raconte pour la première fois l'anecdote, on redit hein, Paris, ville d'Isis, tout ça, mais on raconte pour la première fois l'anecdote de la statue d'Isis qui était placée sur l'actuelle en fait place Michel Debré, la place du Centaure de César aujourd'hui. C'est ça que Nerval raconte, mais de façon un peu bizarre, parce que Nerval il est des fois un peu approximatif aussi, en disant devant l'image de Isis devant le porche de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas loin de ça, c'est pas exactement ça en fait. C'est une statue d'Isis. Parce que le Saint-Germain-des-Prés était beaucoup plus grand. C'était un monastère. Mmh. Il ne nous reste plus que l'église, mais c'était un très grand monastère. Et à l'entrée, en tout cas un peu en amont de l'entrée, il y avait une grande statue, et ça aurait été une statue d'Isis. Et un prêtre qui faisait partie de ce monastère, qui s'appelle... c'est pas Brisacier, mais c'est un nom un peu comme ça. Enfin bon, bref, qui était l'ancien évêque de Meaux, mais qui était devenu le patron de Saint-Germain-des-Prés. Brissonnet, voilà. Monseigneur Brissonnet. Brissonnet est là, devant les femmes parturientes qui continuaient à déposer des offrandes devant la statue, de colère, a pris un immense maillet, l'a détruite, l'a remplacée par une croix. Et donc ça, c'est une anecdote qui est racontée pour la première fois dans le guide de Corozé, mm-hmm. et qui explique en fait à ce moment-là, l'ensemble du monastère de Saint-Germain-des-Prés était anciennement un temple dédié à la déesse Isis. Et après, au XVIIIe siècle, on va ajouter à cette idée-là une idée encore plus bizarre, celle-là probablement plus fantasmée, que à l'emplacement de Notre-Dame également, anciennement, il y avait un temple de la Décisis, qui aurait eu deux temples de la Décisis.
Donc on n'en finit pas
On n'en finit pas.
On n'en finit pas. Vous dites voilà. Nerval, vous le surnommez Nadir de Nerval.
Oui.
Et vous dites, si l'étoile de Nerval oriente Jojo le gilet jaune, alors la révolution sera mystique et la poésie visionnaire.
Oui, alors, voilà. Bon,
parce que vous dites, ce sont les gilets jaunes qui ont redonné sens à Paris.
Ben oui,
et
bien
c'est
sûr. Mais bien sûr. C'est un crève-cœur, ce qui s'est passé. Mais ça a été une année de joie quand même. Mais c'est évidemment un crève-cœur de voir que leur éborgneur a pu s'en tirer à si bon compte. Mmh. On a vraiment une espèce de bébé tiers, quoi, au pouvoir. Mmh. C'est sûr que si on regarde par rapport à Thiers, bon, Thiers, la commune massacrée, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sanglant. Mais c'est pas l'envie qui le retient, le petit bonhomme. Donc c'est sûr que c'est vraiment répugnant. Après, si on regarde les choses avec du recul, on peut se dire le 19e siècle a été rythmé par des révolutions qui ont été réprimées, et puis après on arrive au 20e siècle et il y a eu le Front populaire. Donc il y a et puis on n'a pas tout perdu, enfin je veux dire à chaque fois quelque chose est resté. Donc moi, je souhaite qu'il y ait une sorte de reprise, on va dire, de ce qui s'est donné avec les Gilets jaunes, qui était extraordinaire, mais avec un élément nervalien. Alors, je ne sais pas s'il viendra.
Alors,
et c'est pour ça que je disais, mais c'est une blague. C'est-à-dire que l'endroit où est né Nerval, aujourd'hui, il y a un café qui s'appelle Jojo. C'est un endroit où je suis allé souvent.
Voilà.
Et c'est pour ça, comme l'autre comte Macron avait dit Jojo le Gilet jaune. Donc, j'ai dit, si Jojo le Gilet jaune suit l'étoile nervalienne, alors voilà, la révolution de demain. Parce que c'est aussi les lieux qui parlent. Donc,
oui, et vous les laissez parler.
Et voilà. Et
on va faire une pause musicale.
Oui.
Alors, je vous propose un disque de l'invité, John Cale, Paris 1919, puisqu'on est à peu près à cette époque-là. Et c'est un titre qui date de 1973. On y va pendant 4 minutes.
Standing there but never ever talking sense. Just a visitor you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually
casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la 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 la. You're a ghost, la 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 la. And the church shall have come to claim you with my iron drum, la 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 la. Just fallen in disgrace. William, William, William Rogers put it in its place. Blood and tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la 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 la. Yes, you're a ghost, la 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 la. I'm the bishop.
John Kell sur Radio Libertaire.
Et oui, nous poursuivons notre conversation avec Paco Mtielman. C'est vous qui avez choisi. Donc.
Oui.
Alors expliquez-moi, vous, est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que vous avez besoin... Quel est le rôle de la musique dans votre vie, Paco?
Le rôle de la musique dans ma vie est super important. Arriver à le compartimenter est très compliqué. Sur l'écriture, ça dépend. Il y a des moments oui, il y a des moments non... parce qu'il y a des moments où de toute façon je ne fais plus attention à rien d'autre, donc qu'il y a de la musique ou qu'il n'y a pas de musique, je m'en rends même plus compte. Donc ça n'a. Et il y a des moments où la musique est, enfin la musique est importante pour moi chaque matin. De toute façon, les premières choses que j'ai envie d'entendre, c'est moi je suis pas des gens qui écoutent la radio etc. J'écoute de la musique.
Ouais.
J'écoute de la musique, c'est vraiment ça qui
vous met dans la note, dans
ouais,
la note
de la journée, absolument. Et après, il y a surtout de la musique que je chantonne. Dans toute la journée, si je me balade et compagnie, je serai toujours en train de... J'ai toujours un morceau en tête. Et ce morceau-là, qu'on a écouté, c'est un des morceaux que j'ai eu le plus en tête, d'abord sans m'en rendre compte, qui est un morceau que j'adore, hein, mais disons que j'avais pas anticipé la place qu'il prendrait dans ce livre. Alors, j'aurais pu deviner parce qu'il s'appelle Paris 1919, mais bon, il y a plein de morceaux qui est avec Paris dans le titre et c'était pas la question. Mais là, en fait, il se trouvait que très souvent, donc je me baladais, alors que je marchais tranquillement, j'étais là et je me disais tout le temps pom 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 pom. Puis au bout d'un moment, je me disais, putain, c'est encore Paris 1919 que tu chantonnes. Puis des fois, même vraiment, plus j'allais dans des endroits, on va dire plus inamicaux, hein, historiquement, enfin, je sais pas quoi, avec beaucoup de fantômes, beaucoup de trucs très sombres.
Oui, parce qu'il y en a
ça.
Des fantômes hein, dans votre livre.
Il y a beaucoup de fantômes dans le livre. Et là, carrément, je chantais le refrain, j'étais là, je me disais, You're a ghost. Jones, nanana, nanana. Puis au bout d'un moment, c'est devenu, comment dire, ça m'a fait rire. Je me dis, si tu te sens pas bien alors que tu fais tes balades, chante Paris 1919, ça va te donner du courage, etc. Et donc c'est la chanson qui m'a vraiment accompagné. Et en fait, la chanson elle-même, même si je suis pas totalement capable de comprendre ce qu'elle raconte, parce que elle est très, nonsensique. Hein. Alors, je sais pas si c'est des paroles qui sont écrites sur un mode d'écriture automatique, si c'est de la poésie un peu absurde, ou si c'est carrément du cut-up. Les trois sont possibles, étant donné que John Cale, comme beaucoup de gens, a été très inspiré par William Burroughs et Brian Gissin, donc il a pu aussi très bien mettre des phrases en désordre. On sait pas. En tout cas, il se trouve que le récit qui est raconté est très obscur, mais mélange les images d'agents secrets, de fantômes, d'église. Il y a du vin qui coule sur des foules, qui coule comme de la pluie sur des foules dans les Champs-Élysées. Alors ça m'a beaucoup plu, les foules dans les Champs-Élysées. Pour moi, c'était les gilets jaunes. Donc, vous voyez, les fantômes, etc., dans un livre sur Paris, ça passe très bien. Puis l'histoire d'agents secrets, pourquoi pas, j'avais rien contre. Oui. Et tous ces trucs-là se mélangeaient, ils me plaisaient bien. Et on va dire le style de musique, qui est un style très post-Beatles, cette espèce de descente chromatique, pam 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 pam, ça c'est hyper Beatles, hein,
et le rythme quand vous écrivez, c'est important quand vous avez écrit
ce livre. Alors bien sûr, alors après un livre à sa musique, et il doit la trouver. Et chaque livre a pas la même musique, et chaque livre a pas le même ton. Et celui-là a trouvé sa musique sur des phrases. Enfin, souvent, c'est comme quand je commence à écrire. Bon, il y a plein de trucs, c'est des petites choses que j'ai ramassées que je veux mettre dedans. Mais il y a aussi des trucs qui commencent à écrire et qui commencent à résonner entre eux. Et là, c'est pareil, je dois écouter ce que le livre veut. Et le livre était tout le temps en train de répéter les petites phrases qui répétaient tout le temps. C'est pas Paris, c'est son double, la ville inconnue, etc., etc. C'est une épiphanie amène la pierre, c'est etc. Et il y a un petit côté un peu pom 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 pom. Donc en gros, oui, j'étais sur l'espèce de rythme un petit peu de John Cale, ou l'espèce de rythme néo Beatles, néo McCartneyen comme ça, qui faisait pom 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 pom. Et donc je devais le suivre dedans dans le texte. Après, il faut pas qu'il y ait trop de répétition non plus, mais c'est devenu intéressant, justement. On parlait tout à l'heure de Toutankhamon. Et c'est vraiment, le livre a commencé à s'écrire quand on est arrivé sur ce truc-là. Et là, il y a eu ce renversement. Et c'était plus le double, c'était l'ombre. Ce n'est plus son double, c'est son ombre. Et donc, je me dis, OK, là, c'est le livre qui commence à s'amuser, qui commence à jouer avec moi. Et donc, là, je pouvais vraiment rentrer dedans. Et ça, on va dire, c'est la musique de ce livre-là. Mais pour d'autres bouquins que j'ai fait avant, c'était pas du tout la même musique. Mais il faut trouver la musique au début, bien sûr.
Et il y a une sorte de jeu de Marelle.
Oui.
Donc, à chaque fois, vous passez. Alors, qui dit on en était à Nerval?
Oui.
Après, bien sûr, qui dit Nerval? À chaque fois, il y a un autre en entraîne un autre,
bien sûr.
Desnos, très important.
Très important.
Et assez émouvant, parce que vous rappelez une scène chez André Breton, où il y a une sorte de scène d'écriture automatique, où Desnos va avoir comme un rêve prémonitoire, une vision prémonitoire de ce qui va lui arriver. Mais je vous laisse raconter aux auditeurs.
En fait, ce qui se passait, c'est que Desnos, sur plusieurs points, a été des membres du groupe surréaliste, celui qui a été le plus proche de Nerval, en termes de psychologie, en termes de rapport au monde, en termes de géographie parisienne aussi. Puisque Desnos, il a passé son enfance en face de l'église Saint-Sulpice, de l'église, bien sûr que c'est pas Saint-Sulpice, c'est l'église terrible, comme je l'aime pas, elle m'aime pas non plus, et elle se refuse à moi. Mais je vais vous la retrouver tout de suite.
Saint-Eustache,
Saint-Méry.
Saint-Méry, oui, bien sûr.
Saint-Méry. Et Saint-Méry, à chaque fois, je le perds.
Bon.
Bon, voilà. Alors, il est né en face de Saint-Méry. C'est dans la continuité de Nerval. C'est sur la rue Saint-Martin, c'est dans la continuité de Nerval. Et il a bougé dans des lieux qui ont aussi, enfin, suivant les lignes de Nerval, le sachant ou pas. Mais comme il aimait beaucoup Nerval et qu'il en a parlé, il a parlé de Nerval, il a parlé de Flamel, il a parlé de tout ce quartier-là, hein, et de tout ce qu'il contient, je pense qu'il le savait un petit peu. Et quand il arrive à Pigalle chez Breton, parce que Breton, c'est...
La rue La Fontaine.
C'est la rue Fontaine, la oui, rue absolument. Fontaine. D'ailleurs, placé de façon très étrange, ça, j'ai découvert aussi en me baladant et en cherche, parce que Breton était quand même notoirement obsédé par les voyants et les voyantes.
Oui, oui, oui.
C'était quand même vraiment, on va dire, un topoï quoi, de son univers imaginaire et poétique. En fait, il se trouve qu'il habitait entre deux voyants. Il habitait, mais il ne pouvait pas. L'un était mort et l'autre n'était pas encore arrivé. Mais sur la rue Fontaine, là, le numéro où a vécu Breton toute sa vie, sauf le moment où il était aux États-Unis, mais quand il est revenu au même endroit. Donc l'adresse de Breton, c'est à mi-chemin entre l'adresse du mage Edmond, le mage Edmond qui est un mage qui avait prédit à Hugo son exil à Guernesey, etc., qui avait aussi prédit le succès à Alexandre Dumas, bon, mais voilà, le mage Edmond, et qui est le mage Edmond qui avait créé ces petites cartes bizarres que ensuite on offrira à Béline,
oui.
Qui lui a vécu à même distance, mais de l'autre côté de Breton. Donc Breton se situe entre deux voyants qui ont échangé un paquet de cartes. Comment dire, entre le moment où Breton est arrivé et le moment où il est mort. Donc c'est un truc très très étrange. Et c'est sur la rue Fontaine, à côté donc des cabarets du paradis et de l'enfer, puisqu'il vivait au-dessus des cabarets du paradis et de l'enfer, qu'il avait décidé, enfin qu'il recevait les membres du groupe surréaliste, mais qui, à la suite d'une soirée où Crevel a expliqué des techniques pour d'endormissement et en fait de mise en hypnose, quoi, des médiums qu'il avait appris, il avait décidé de les tester. Ce qui est ce qu'on appelait l'époque des sommeils du surréalisme. Et le plus doué de tous, c'était Desnos. Mais c'était à un point où c'était absolument inouï. C'est-à-dire que lui, il se mettait en transe tout de suite. Il devenait inarrêtable. Il avait beaucoup de mal à quitter la transe, par contre. Et il avait des visions pour tout le monde. Et des visions qui ne sont pas des visions, comment dire, ce ne pas des prédictions qui sont... A égale A, quoi. Mmh. C'est plus étrange que ça. Mais qui, poétiquement, vont vraiment avoir du sens. Et il va en avoir pour un certain nombre des surréalistes. Bon, du reste, ça a été ensuite un peu documenté, hein, que ce soit dans les biographies d'Esnos ou dans les recueils de ses textes. On a les différentes paroles dites à haute voix par d'Esnos dans la transe. Et mais donc, voilà. Pour lui-même, c'était beaucoup plus étrange. C'est-à-dire que... Il va parler de sa mort et il va dire à Breton, à cette époque j'étais chef des balayeurs. Et Breton dit, vous étiez chef des balayeurs? Et là, il va commencer à trembler, à pleurer, et il va dire, j'étais chef des balayeurs. Et je ne suis plus qu'une feuille balayée par le vent. Et en fait, le truc, c'est que Desnos, quand il va être déporté pour fait de résistance, en camp de concentration, il va mourir en camp de concentration des suites de... évidemment, maltraitance, blessures, maigrissement extrême, malnutrition et tout ça, etc. etc. Mais avant cette période-là, où il est Theresienstadt, il va être chef des balayeurs. Va être sa fonction en camp de concentration. C'est ça qui est inouï. C'est ça qui est complètement inouï.
Donc voilà, des rapprochements, à chaque fois dans votre livre, c'est l'ancien, le nouveau, l'avenir... Le surréalisme, dites-vous, est inimaginable hors du domaine de la voyance, mais il est également une image inimaginable hors du domaine de Jean-Jacques Rousseau. Mmh. Rousseau, écrit Breton, c'est une branche, pour moi, la première. J'étais à l'auteur à hauteur d'homme que la poésie a pu fleurir. Mmh. Donc, il y a Rousseau aussi qui
oui,
est présent
bien
dans
sûr,
votre livre.
Bien sûr, essentiel.
Bon, après, il y a Artaud, Lautréamont, Balzac. Alors, Balzac, oui. C'est assez... C'est vraiment le Balzac, comment dirais-je, qui fuit un peu les... Ouais. C'est vraiment la double vie de Balzac, les triples vies de Balzac qui vous intéressent.
Oui, oui.
Et puis aussi Mallarmé, Alfred Jarry. Et côté voyance et côté magie, il y a quand même un autre personnage, c'est Nicolas Flamel.
Oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui, bah on l'appelait le Parisien.
Voilà.
Donc vraiment, ne pas parler de Nicolas Flamel aurait été... un manque énorme par rapport à la ville de Paris. Il a quelque chose de central. Bon, en tant que de, c'est une grande figure de l'alchimie. C'est aussi une grande figure de la géographie parisienne. En tant qu'il a financé des choses qui ont disparu, hein, qui étaient liées au charnier des Saints Innocents, qui ont été décrites, qui sont des constructions, des sanctuaires, etc., qui ont été détruits. Mais par contre, on a toujours évidemment la Tour Saint-Jacques.
Et
ça, la Tour Saint-Jacques, bon, c'est un endroit, qu'on peut pas, qu'on ne peut pas occulter sous peine de perdre quelque chose de la boussole parisienne. Et avec ce truc quand même assez extraordinaire et émouvant, que ça soit auprès de la Tour Saint-Jacques que on ait dressé une stèle en hommage à Nerval et on ait gravé les 8 premiers vers d'El Desticado. Alors, il y a un lien évidemment entre Nerval et Flamel, mais le fait que finalement on ait ramené Nerval à Flamel, il y a quelque chose de très poétique et de très très beau.
Et c'était un écrivain public, hein, Nicolas Flamel.
Oui.
Qu'il y a de fascinant, dites-vous, avec Nicolas Flamel, c'est l'idée qu'il y a deux états de son identité qui coexistent sans se confondre, comme Paris, la ville matérielle et la ville symbolique se rejoignant et se disjoignant et se rejoignant alternativement à la mesure de nos pérégrinations. Et vous dites aussi que Nicolas, son prénom signifie le vainqueur de pierre. Donc, c'est un personnage, je dirais presque hugolien, de l'alchimiste. Et puis, alors, un autre personnage, moi, la voyante de Robespierre, je ne la connaissais pas, celle-là.
Ah oui.
Alors, la voyante, c'est Catherine Théo, c'est ça ?
Oui, absolument, Catherine Théo.
Alors, elle aurait dit « Je ne périrai pas sur l'échafaud, un événement qui jettera l'épouvante dans Paris annoncera ma mort ». Donc elle avait prévu sa mort.
Catherine Théo est une figure extrêmement émouvante. Figure mineure de la Révolution, on peut le dire comme ça. C'était une voyante des pauvres.
Ouais.
C'était une figure. Elle a surtout servi à un moment à des salopards qui ont voulu faire un procès à Robespierre et un procès en volonté d'apparaître comme un messie. Et donc ils se sont basés sur cette voyante des pauvres qui elle-même était misérable, quoi, qui vivait dans le quartier, à côté de la place de la Contrescarpe. Enfin, dans une petite rue qui monte sur la Contrescarpe. Et ils l'ont arrêtée, elle et ses 7 ou 8 amis, disciples, ou enfin gens qui allaient chez elle pour qui étaient des chiffonniers, quoi, qui allaient écouter leur avenir, parce que elle voyait en Robespierre, non pas un messie, mais un prophète du messie consolateur des pauvres. Et donc elle avait accueilli pleinement la révolution sur un mode mystique, cette Catherine Théo. Et donc deux ennemis de Robespierre ont arrêté avec l'idée que comme ça ils allaient démontrer la culpabilité de Robespierre. Quoi. Robespierre a réussi dans un premier temps à la faire libérer face à l'injustice. C'était sa dernière victoire. Après, il allait tomber et se faire exécuter très rapidement. Elle, derrière, on allait la réarrêter. Et c'est là où elle avait dit « Mais je ne mourrai pas sur l'échafaud, le jour où je mourrai, c'est le jour où il y aura la plus grande catastrophe qui s'abattra sur Paris. » Et en effet, elle est morte le jour de l'explosion de... C'est la première la plus grande à ce jour explosion industrielle dans Paris. C'est l'explosion des usines de Grenelle.
Voilà, la poudrerie de Grenelle.
La poudrerie de Grenelle.
Située entre Javel et les Invalides.
C'est ça.
Avec plus de 1000 morts d'ailleurs à l'époque. Et donc elle avait vu juste...
C'est une voyante.
C'était
hein.
une voyante. Autre personnage fabuleux aussi, le comte de Joseph Balsamo.
Gagliostro, voilà. Oui.
Alors, il y a des personnages comme ça, que c'est comme si Paris, c'est un roman et on les suit et ils sont toujours vivants. Ils font même des clins d'œil entre eux, c'est ça le pire.
Oui. J'essaye de voir la plupart des clins d'œil qui peuvent se faire en travers les rues, en tout cas. Parce que ce qui était étonnant en se baladant, c'est de voir, en fait, finalement, des éléments disparaître et réapparaître à mesure que je faisais des chemins, qui étaient plus ou moins orientés par des récits. Et typiquement, un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était quand j'étais allé sur les traces de Lautréamont, sur la place Notre-Dame des Victoires, qui est le plus proche de là où, en fait, où il y a l'ensemble des différents appartements qu'il a habités. Sur la place Notre-Dame des Victoires, on a en haut des immeubles, autour de l'église, plusieurs petites micro-chapelles, on pourrait dire, avec des vierges à l'enfant, qui sont toutes plus ou moins cassées. Il y en a une qui est vraiment nette, où en fait, il est carrément décapité. Donc, c'est-à-dire que c'est une vierge à l'enfant décapité, c'est un enfant sans tête. Mmh. Et si on monte depuis cet endroit-là, où on a le premier appartement de Lautréamont à deux pas, qu'on monte et qu'on va jusqu'à l'endroit où il a eu son dernier appartement, passer le fameux boulevard des Suicidés, la place Cossu, enfin en gros le carrefour de Châteaudun, passer le carrefour de Châteaudun, on arrive à là où il devait avoir son dernier appartement. Là, alors je dis non, je vais trop haut. C'est pas le carrefour de Châteaudun, c'est un peu en dessous. C'est les grands boulevards, voilà. C'est les grands boulevards. Si on va sur les grands boulevards, là, on se place exactement là où il était. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une publicité qui reste encore des années 10 ou des années 20 pour les savons Cadom, bébé Cadom. C'est juste une tête de bébé. Donc, en fait, si vous voulez, la tête manquante du bébé de la place Notre-Dame des Victoires, je le retrouvais à la fin du récit de Lautréamont, toute seule. Ouais. Tout en haut des immeubles, peinte, ouais. Trônante et comment dire.
Bon, là, c'est, voilà. Ouais, c'est vrai, là, j'ai un petit peu plus de mal à vous suivre, mais j'y arrive.
C'est une image.
C'est une image.
Je dis pas que ça a vraiment lieu, évidemment, ouais, mais c'est une image. C'est ça aussi que j'aimais bien dans l'idée
de réponse, de questions-réponses.
C'est ça. C'est de toujours essayer de voir est-ce que la ville peut continuer à me raconter des histoires.
Est-ce que la ville est toujours vivante ?
Exactement.
Auguste Blanqui, alors ça, c'est un personnage.
Ah oui.
Assez bon, il faut quand même qu'on en parle. Ouais, voilà ce qu'on disait Victor Hugo. C'est une sorte d'apparition lugubre dans laquelle semblaient s'être incarnées toutes les haines nées de toutes les misères, nature triste et profonde. Rien dans ce cœur, pas de goût, pas une affection, pas un amour, pas un vice, pas une femme. C'est un peu le désert de l'amour, non, on pourrait dire. Mais cet Auguste Blanqui, il fonde mille et une sociétés. C'est un homme qui passe, d'ailleurs, vous dites, il a passé sa vie à construire des plans mystérieux, des labyrinthes de galeries souterraines pour miner la société. Ajoute Hugo, ça c'est Hugo.
Voilà. Oui. Alors oui, parce que Hugo avait vu Blanqui, et il avait eu d'antipathie pour lui, mais je trouve qu'il avait pas trop mal écrit, même si moi j'adore Blanqui personnellement. Mmh. C'est une figure qui me fascine totalement, qui est une figure assez austère, assez sombre. Hein. Mmh. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec Hugo quand il dit pas un vice, pas un amour. Pour le vice, j'en sais rien. Il avait eu un amour, mais il était veuf en fait. C'est un jeune veuf. Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis exactement.
Oui. Et donc il est resté éternellement veuf, c'est-à-dire que il a été très 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 amoureux. Et du reste, Victor Hugo aurait pu le savoir, ça s'est joué à peu de près, mais parce qu'il vivait Place des Vosges à un numéro de Blanqui quand Blanqui s'est marié.
Ah oui, en effet.
Et le mariage ayant lieu Place des Vosges, en fait, Hugo a sans doute vu le mariage de Blanqui. Mais ils ne connaissaient pas encore Blanqui à l'époque. Ils étaient vraiment voisins à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est important pour Blanqui ? Bon, bah Blanqui, c'est celui qui a préparé, en gros, qui a essayé de préparer la Révolution pendant un siècle. Et toutes ces préparations n'ont pas été totalement vaines, parce que malgré tout, la Commune de Paris, auquel il n'a pas pu assister parce qu'il a été arrêté le jour même où elle a été déclarée, alors qu'il n'était pas sur les lieux. Il a été arrêté par Thiers immédiatement parce que Thiers avait qu'une seule peur, c'est que Blanqui prenne la tête de la Commune. La Commune était remplie de blanquistes. Mais Blanqui, le truc de Blanqui, c'était la conspiration permanente. Alors aujourd'hui, évidemment, on a peur des comploteurs. Mais si on regarde au 19e siècle, les comploteurs, c'est des gens formidables. Donc il a fait des tonnes de petites sociétés secrètes à chaque fois dans le but de faire des soulèvements. Et il a participé à la plupart des soulèvements du 19e siècle. Il a été en prison plus de la moitié de sa vie, hein, je crois les deux tiers de son existence. Et il a quand même réussi à s'évader du fort du taureau, c'est-à-dire un bagne au milieu de la mer, là, d'une façon absolument extraordinaire, en créant un faux. Avec ses vêtements, remplissant des coussins, etc., qu'il avait placé, c'est une histoire extraordinaire, il avait placé de dos, la première partie de son séjour dans cette prison, il avait lu, parce qu'il lisait, il écrivait beaucoup, donc il avait lu. Donc, en fait, les gardiens le voyaient toujours de dos, en train de lire. Il passait, il disait, alors Blanqui, machin, et puis il ne répondait pas. C'est important qu'il ne réponde pas,
mais oui,
parce qu'après, il a mis...
Une sorte de mannequin, non ?
Un mannequin, ouais, enfin ouais. Fait avec un polochon, ouais. Machin, ouais. Il a mis dans ses vêtements et il a creusé.
Ouais, ça rappelle Monte Cristo, là.
Mais bien sûr.
Alors, on est en plein Monte Cristo. On va faire une petite pause musicale, oui, et nous reprenons notre conversation.
Oui, il y en a un autre qui a creusé les enfers. Hein. C'est Orphée pour retrouver Eurydice, White's Live, chanté par la grande Kathleen Ferrier sur Radio Libertaire. Nous allons un peu couper Kathleen Ferrier, Gluck, Orphée, pour revenir sur Radio Libertaire dans Bibliomanie.
Et Eh oui, Paco Thielman, nous vous suivons. Mmh. Vous m'avez parlé de Baudelaire hors antenne.
Oui.
Et
aussi.
Voilà. Bon, mais il y a plein de. Alors là, je voudrais vous. Il y a tout un. On va arriver au lieu.
Oui.
Est-ce que vous n'êtes pas à Paris? Moi, ça m'a beaucoup amusé.
D'accord.
Les touristes, moi aussi, je les aime pas.
Bon, évidemment.
Et vous citez
ils
Balzac.
Sont pas aimables.
Hélas, le vieux Paris disparaît avec une effroyable rapidité. Encore quelques jours et les piliers des Halles auront disparu. Le vieux Paris n'existera plus que dans les ouvrages des romanciers assez courageux pour décrire fidèlement les derniers vestiges de l'architecture de nos pères, car de ces choses, l'historien grave tient peu de compte. Vous n'aimez pas du tout, voilà, le grand remplacement, c'est les touristes.
Oui, ça me faisait rire. Oui, voilà, parce que bon, c'est le livre est aussi fait forcément écho à tout ce qu'on entend autour, etc. Et alors les conneries de grand remplacement. Mais moi, je dis ben oui, mais le grand remplacement, moi je le vois bien à Paris. En tout cas, c'est les Airbnb pour touristes, les Parisiens qui sont rejetés en dehors de la ville, encore et encore et encore. Quoi, c'est pas les Arabes pauvres hein, qui envahissent Paris. Hein, c'est les touristes riches, quoi.
Et donc, puis des lieux.
Sûr.
Voilà, alors ça, voilà. Oui. Et puis alors, des lieux, alors, oui. Les squares, très important, le Luxembourg.
Oui. Bah, le Luxembourg, ça, il me fascine en même temps. J'ai un rapport ambivalent. Comme je sais que c'était initialement l'enfer, je vois sa présence et je vois aussi le fait que c'est là où on a décidé de mettre les femmes illustres de France et les poètes.
Ouais.
Et donc, il y a deux solutions, hein. Où on considère qu'ils peuvent le mieux nous protéger de l'enfer, ou c'est qu'on a voulu les mettre en enfer.
Alors,
à vous de choisir.
Le diable Vauvert, c'est l'enfer, dites-vous, le domaine du diable. De ses affidiliers était compris entre l'actuelle rue d'Enfer-Rochereau et la rue d'Assas. Il englobait nos actuels jardins de l'Observatoire et du Luxembourg.
Ouais, ouais.
Puis vous précisez plus loin, enfin d'Enfer-Rochereau. Rochereau devient le point de départ du plus ténébreux des jeux de piste parisiens de Jacques Rivette,
oui.
Le pont du Nord,
oui.
En 1980.
Ça démarre avec le lion d'Enfer-Rochereau, qu'il sache pourquoi ou non. C'est là. C'est dans le film.
Et ouais, donc,
ouais,
il y a le Luxembourg et le jardin du Luxembourg et le Louvre que vous avez. Bienvenue en Louvrie.
Oui,
vous n'aimez
oui.
pas le Louvre?
Non, du tout. Bien sûr. Non.
Le Louvre ressemble désormais à un aéroport. Et d'ailleurs, presque tous les espaces culturels parisiens ressemblent déjà à des aéroports, avec des boutiques de luxe pour touristes, des cafétérias dégueulasses pour jeunes et pour finir, un fast-food pour pauvres.
Oui.
Voilà.
Bah oui. Oui, désolé, c'est un peu. Mais c'est comme ça. Hein, c'est,
et d'ailleurs, c'est Rimbaud, dites-vous,
oui.
dites-vous, il voulait brûler le Louvre.
Oui.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est ce, que...
c'est ce qu'il dit à Verlaine, mais le deuxième jour de son arrivée, quoi. Verlaine, il veut l'amener au Louvre pour les trucs. Il dit, c'est dommage que ça n'ait pas été brûlé, ça, que la commune n'ait pas brûlé, les communards n'aient pas brûlé le Louvre. Il aurait voulu que les communards brûlent le Louvre.
Vous parlez d'un zoo culturel pour bourgeois.
Oui, ben parce que en fait, de toute façon, il y a un truc qui va pas dans le musée en tant que tel. Alors, je comprends qu'avec le temps, on ait fini par admettre. Le musée en tant que l'endroit où on a volé toutes les plus belles œuvres d'art du monde et en fait les gangsters montrent leur collection et donc on va voir la collection des gangsters. Bah quoi, c'est les gangsters qui ont volé. Les peuples ne les ont pas donnés. On les a pris. Donc d'un et deux après bon, c'est aussi cette espèce de ramassis de toutes les œuvres de tous les temps finissent par devenir simplement une espèce de boîte où on les range indifféremment les unes aux autres. Donc des peintres qui sont haïs toute leur vie, qui ont chacun eu une vision de ce que devait être l'art, le machin, etc. Bon, on les retrouve tous en brochette, comme ça, à la queue leu-leu. Je sais pas en quoi, comment dire, je sais pas en quoi c'est honorifique pour une œuvre d'art de terminer dans un musée. C'est pas que j'aime pas l'exposition, mais il y a des musées, par exemple, les musées individuels, je les aime beaucoup. Par exemple, le musée Gustave Moreau, je le trouve absolument magnifique. Magnifique, mais c'était chez lui. Il l'a construit lui-même. Enfin, comment dire, il a pensé ses œuvres.
Vous n'aimez pas le musée institutionnel?
Du tout. Et quelles que soient les bonnes intentions qui soient derrière, et quel que soit le temps dont il est resté. Donc, ça, de toute façon, pour moi, c'est raté. Alors, j'entends bien. Bon, du coup, c'est là depuis longtemps, etc. Le Louvre, c'est peut-être le seul endroit où on peut trouver ses œuvres et tout ça. Donc, on va pas taper sur le Louvre. Mais on peut taper sur le Louvre en tant que Louvre. C'est ça que je veux dire. C'est que.
Ah bah vous,
c'est, voilà. Donc, après, en tant qu'actualité, en tant que Louvre d'aujourd'hui, c'est trop facile. Je veux dire, c'est vraiment une abomination totale. J'ai jamais rien vu d'un truc pareil. pareil. C'en est comique. C'est-à-dire que c'est une espèce d'aéroport à la con, là, avec des trucs à l'entrée. Faut venir 2 heures avant, ou faut prévoir 2 heures avant, faut s'inscrire sur Internet. On arrive, on a des tickets, on part rentrer, on a 2 heures pour passer, pour aller là et là. Et puis, entre-temps, on a la boutique de luxe, on a les espèces de cafés dégueulasses dans les boîtes en carton, et puis on a les fast-food. Puis voilà, ça s'arrête là. Donc, ça a été construit pour. Puis de toute façon, tous les lieux culturels finissent par ressembler à ça, quoi qu'il arrive. Donc, c'est à dire, est-ce que c'est fatal ? Enfin, y a deux manières de l'entendre. De toute façon, aujourd'hui, tous les lieux culturels sont réaménagés pour permettre de vendre le plus de saletés possible. C'est le but, quoi. Ça devient des espèces de trucs pour vendre des saletés. Est-ce que c'est des lieux culturels qui devraient être préservés en tant que lieux culturels, ou est-ce que le principe du lieu culturel souvent a été très mal pensé et qu'on pourrait tout à fait le penser autrement? Alors moi, je ne dis pas que je saurais le faire tout seul avec mes petites mains, mais quoi, si vous me confiez les tableaux, mettons, de Fra Angelico ou de Botticelli qui sont au Louvre, je trouverais une autre manière de les montrer, si vous voulez, que de les mettre dans ces espèces de grandes boîtes atroces. Bon. Et ouais, bref, voilà. Bon, on ferme, parenthèse fermée.
Les Champs-Élysées, c'est l'anti... Les Champs-Élysées, c'est l'anti-Paris, ville d'Isis. Sa seule qualité à mes yeux est d'avoir été le théâtre des magnifiques station des Gilets jaunes en 2019.
Oui.
Bloquer la possibilité aux touristes de s'y balader le samedi, c'était magnifique. Mais symboliquement, c'était voué à ne pas prendre parce que c'est un lieu terriblement vide.
Oui, mais les Champs-Élysées, c'est une arnaque. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça a été construit la plus belle avenue du monde, c'est ça. Mais c'était une phrase publicitaire. Personne ne l'a jamais pensé, ce truc-là. On a fini par le répéter comme des toutous. En fait, c'est apparu dans un article du Figaro, quasiment un article publicitaire pour les Champs-Élysées, pour faire envie aux gens d'aller aux Champs-Élysées. C'était un gimmick. Les Champs-Élysées, dès le départ, en plus, c'est une aberration d'avoir le séjour des morts. Pourquoi pas, hein. Ça les amuse d'avoir fait ça. Mais une très grande avenue avec ces vagues boutiques de luxe, etc. Pour moi, c'est un des endroits les plus laids, les plus vides, les plus aberrants. Qui s'inscrivent en rien en plus dans la poétique parisienne. Enfin, c'est-à-dire, s'il y a une poésie de Paris, elle n'est absolument pas dans les Champs-Élysées, mais jamais. Voilà. Le fait que ça a été le lieu des manifestations des Gilets jaunes, ça j'aime beaucoup, mais il faut voir que symboliquement, ça ne représente rien. Tandis que s'ils étaient allés, à Notre-Dame, oui, ça représentait un truc fort symboliquement, parce que là, on est au centre, de l'épicentre de la poétique parisienne, au milieu du quartier latin, des endroits qui ont été traversés par les hommes depuis très très longtemps. Les Champs-Élysées, ça même pas 2 siècles, cette connerie. Pardon, excusez-moi, non. Je suis très mal poli en plus. Peut-être les gens, ils écoutent la radio, ils vont dire mais tais-toi, petit con. Mais bon, bref. Non.
Alors, par contre, vous aimez le Marais, voilà. Vous habitez.
Ah oui, beaucoup.
Voilà. Alors, le Marais, il y a beaucoup. Alors, peut pas tout dire, parce que ça, faut laisser aux auditeurs, à vos futurs lecteurs le sorte de découvrir. Par exemple, vous dites, c'est ça le Marais, une sorte de nuée qui tourbillonne autour d'un crime qui porte en lui les lointaines prémices de la fin du régime monarchiste. Parce qu'il y a beaucoup de fantômes, voilà, vous parlez aussi de Marie-Antoinette, les fantômes du Trianon.
Oui.
Le Marais, c'est l'arrondissement des hôtels particuliers aussi.
Oui, oui. Et c'est l'arrondissement des événements historiques. Des événements historiques un peu des jalons. Toutes les histoires poétiques se placent sur le Paris vertical. C'est-à-dire qu'en gros, ça part du quartier latin et ça monte jusqu'à Montmartre. Et là, on va trouver Nerval, Lautréamont, on va trouver Breton, Desnos, Sardelais, etc. etc. On va pour raconter des histoires qui vont se jouer sur le chemin vertical de Paris. Puis il y a le fleuve. Il y a les différentes de nations jusqu'à justement ces aberrants Champs-Élysées, sur toute cette ligne qui est liée au fleuve, on va avoir les événements révolutionnaires. Et en fait, le plus surprenant, le plus curieux, c'est cette espèce de petite boule qu'est le Marais, et où là, on va avoir pendant un moment les hôtels particuliers. En gros, les rois et reines vont habiter là pendant un bon moment. Mais du coup, il y a aussi des crimes clés qui vont se situer.
Ouais,
et on va retrouver des épisodes vraiment symptomatiques, hyper intéressants, depuis la mort de Charles VI, le roi fou, ouais, et surtout celle de son frère assassiné, Louis d'Armagnac, qui va donner la suite d'événements qui va amener les Anglais à Paris et la domination anglaise de Paris, jusqu'à l'affaire du collier qui va précipiter la chute de Marie-Antoinette, à la suite de très grosses injustices faites par Louis XVI et par Marie-Antoinette, qui, quelle qu'ait été, on va dire, leur naïveté, ils ne sont pas totalement innocents non plus. Mmh. Malgré on va dire l'image postériori qu'on a en disant oui, bon, ils comprenaient rien, etc. Oui, bon, mais il y a quelques petits trucs que je rappelle comme ça en passant.
Mmh. Donc on revisite l'histoire grâce au Marais. Vous êtes originaire du 15e, que vous n'aimez pas trop.
Non, et c'est puis, pas un mot qu'on puisse dire, mais voilà. Bon, il n'est pas très aimable.
Voilà. Et puis, vous parlez par exemple de la rue des Trois Portes,
oui,
où Cavanna d'ailleurs
a vécu.
Là, on sent que. Voilà, on sent que cette rue des Trois Portes, vous l'aimez.
Ah, bah oui. Ah. Et elle est aimable.
Voilà.
Alors, la rue des Trois Portes. La rue des Trois Portes, c'est la troisième adresse de Harakiri. Harakiri est né rue Choron, comme le nom peut l'indiquer. La rue Choron précédait l'existence du professeur Choron. Hein, il s'est appelé comme ça pour la rue Choron, alors qu'il a eu une rue à son nom avant même d'exister, ce qui est formidable. Donc c'est né rue Choron, après c'était rue Montolon.
Ouais.
Et dans un troisième temps, c'était rue des Trois Portes. Grosso modo, quand ils ont eu de l'argent, quand ça a marché à Harakiri, ils sont installés rue des Trois Portes dans un plus grand local, etc. Et Cavanna a pris une chambre de bonne en face. Et il l'a gardé toute sa vie. Tout petit lieu où il écrivait. Il a écrit tous ses livres dans ce petit lieu, face à Harakiri. Et Choron, quand il a perdu tout son argent, quoi, enfin, quand il est devenu très pauvre, il a vécu à l'intérieur de son local.
Mmh.
Donc juste en face. Et c'est une époque en plus où ils étaient fâchés l'un et l'autre. Mais fâchés l'un et l'autre, ils étaient quand même face à face l'un et l'autre, toute leur vie. Et c'est hyper intéressant ça aussi. C'est typiquement des alpha et des oméga. Et c'est pour moi, l'esprit Harakiri est à peu près ce qu'il y a eu de plus important, on va dire, en France, après-guerre, en termes de... et d'événements culturels. Alors après, il s'est passé beaucoup de choses sublimes en dessin, en bande dessinée, en littérature, en tout ce que vous voulez. Mais on va dire le changement des mœurs ou l'événement culturel clé pour le changement des mœurs, pour moi, c'est Harakiri. C'est le truc Harakiri, c'est l'invention de l'humour bête et méchant. C'est un truc qui n'a aucun équivalent dans le reste du monde, qui est un truc vraiment très 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 singulier, d'essayer de faire rire à travers la vision du monde la plus violente possible. Et la plus terrible, une pièce d'humour qui arrive à se tirer de la situation la plus de la grande catastrophe, et que ce truc là à travers l'esprit Harakiri se transformer en hebdo, l'hebdo Harakiri qui est devenu Charlie Hebdo, etc. Cette espèce de petit moment qui démarre au début des années 60, qui prend une espèce de pic à la fin des années 60 et qui va disparaître au début des années 80, c'est un moment clé avec des figures clés.
Mmh.
Ces figures clés, c'est Choron, Cavanna, mais c'est aussi Reiser, Volinsky, GB, Cabu, Delphi de Thon, Willem, et Fournier. Mais pour cela, oui, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, et qui est aussi lié à cette espèce de pôle de la géographie parisienne qu'est la rue des Trois Portes, parce que, comme d'hab, je vais la mettre en relation avec les autres rues. Mmh. Et en fait, elle est parallèle à une rue qui, pour moi, est vraiment la rue de la dégradation totale de l'après-guerre, qui est la rue de Bièvre, la rue maudite de Bièvre, puisque c'est la rue de Mitterrand. Donc si, on va dire, une chose superbe est arrivée à la gauche, on va dire, ça raquirie, une chose vraiment très triste arrive à la gauche, c'est Mitterrand. Et elles sont en parallèle.
Elles sont parallèles.
Oui.
C'est marrant. Et alors, Cavanna, dites-vous, c'est Paris. On ne pense pas spécialement à Paris quand on pense à Cavanna. Vous le remettez, son écriture...
Au sein de Paris.
Au sein de Paris.
Il connaissait très bien Paris. Il a écrit des très beaux textes sur Paris, dont une chanson chantée par... j'aurais pu l'amener. J'ai pas pensé... Marcel Amont. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette chanson aussi dedans, dans le livre.
Marcel Amont. Voilà. Et vous aimez bien Ménilmontant.
Ah, beaucoup, Paco, beaucoup, beaucoup Ménilmontant, bien sûr.
Ce n'est un secret pour personne. Le quartier de Ménilmontant est celui qui ne s'est pas rendu. Où Jean-Jacques Rousseau s'emballade, essaya d'éviter un gros chien. On connaît l'épisode avec Rousseau. Et vous avez une librairie dont vous parlez.
Oui.
Voilà, vous aimez mais vraiment Ménilmontant.
Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'y suis presque tout le temps.
Donc c'est votre second après le Marais, c'est Ménilmontant.
Oui, il y a plusieurs endroits que j'aime, quoi. En fait, j'aime des endroits parce qu'il y a des endroits que j'aime dans ces endroits aussi. Et là, il y a cette librairie que j'adore, qui est le Montant-l'Air,
voilà.
Et où j'y suis tout le temps fourré. Et puis bon, après, il y a des lieux aussi autour de Ménilmontant que j'aime bien, des restaurants, des personnes qui y vivent, tout ça, qui fait que je suis souvent à Ménilmontant. Mais maintenant, depuis le livre et depuis quelques mois, et ça va finir par faire un an, j'ai un ciné-club à Strasbourg-Saint-Denis, sur le boulevard de Strasbourg. Bon, ben maintenant, j'aime aussi beaucoup le boulevard de Strasbourg.
Oui, vous êtes éclectique, si on peut dire. Enfin, vous...
Disons que les lieux rayonnent aussi des personnes qui les font vivre.
Bien sûr. Mais dans cette librairie Le Monde en l'air, il y a un rayon entier consacré à la commune.
Mais bien sûr.
Voilà.
Hein, même deux rayons.
Deux rayons.
Deux rayons.
Et puis les adresses insolites. Alors ça, il y en a une, c'est 25 Avenue Rapp, la société de théosophie. Donc, et vous évoquez, voilà, vous évoquez un peu ces façades un peu... Ouais. Qui séduisent votre œil de cinéaste et d'écrivain.
Bah, j'aime beaucoup, en tout cas, les immeubles architecturés par Lavirotte.
Voilà.
Et Lavirotte.
Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce Jules Lavirotte?
Jules Lavirotte, bah, un petit peu. Bon, c'était un Lyonnais, mais il a fait ses grands immeubles à Paris. Et en fait, il a une personnalité assez curieuse. C'était que, comme un président de sinistre mémoire, il est tombé amoureux, bah, pas de sa prof, mais de la femme de la femme de son directeur d'école. Et donc, ça a été un scandale terrible. Ses parents l'ont envoyé à Paris, etc. Et en fait, elle a décidé de le rejoindre. Elle était folle de son Jules Lavirotte. Et ce qui l'a entraîné, d'ailleurs, un divorce qui était entièrement... ça a été un drame pour elle. Mais quoi, elle l'a rejoint. Elle a rejoint son Jules. Jules et Jeanne. Et ils ont vécu dans l'immeuble qu'a construit Lavirotte. Un des deux immeubles qu'a construit Lavirotte. Qui sont rapprochés. C'est-à-dire, ils ont vécu dans celui du Square Rapp. Mais le plus extraordinaire, c'est celui de l'avenue Rapp. Et celui de l'avenue Rapp, alors vraiment, si vous y allez, mais vous pouvez passer votre journée à observer toutes les strates de sculptures qui y figurent et les images derrière les images. Parce que c'est entièrement une sorte d'architecture à la fois, on va dire, baroque et érotique.
Et rococo,
oui.
Ouais, un peu,
c'est-à-dire que, bon, alors, c'est très clair que quand on recule, on voit que la porte, c'est un sexe masculin en érection. Mais quand on est proche, on s'en rend pas trop compte. Mais par contre, on a beaucoup d'animaux, des animaux qui cachent d'autres animaux, deux jeunes gens qui aguichent les passants de façon très étrange autour de la porte. Un jeune homme et une jeune femme qui sont là et qui te proposent de rentrer. C'est hyper étonnant au sein de Paris. Je parle de quelque chose qui date d'il y a plus d'un siècle, hein. Donc c'est une création tout à fait étonnante et c'est un destin tout à fait beau et émouvant aussi, parce que elle était un peu plus âgée que lui, comme on l'a compris. Quand elle est morte, il est devenu fou.
Ah, oui. Ouais.
Il est devenu fou de chagrin. Et il l'a suivi pas très longtemps après. Mais il a vraiment eu une plongée dans la démence de la disparition de... Donc c'est un amour fou quand même, c'est un grand amour. C'est un grand amour qui préside à des architectures folles.
Folles, un onirisme, un imaginaire. Donc,
exactement.
Important. Ce que vous aimez. Alors, autre coup de cœur, c'est le 14e arrondissement.
Oui,
hein. Ce 14e arrondissement, je l'aime d'amour. J'ai connu certains de mes plus grands moments de bonheur de ces 5 dernières années. C'était à la galerie Corinne Bonnet, 63 rue Daguerre.
Oui.
La rue Daguerre est la rue où, en juin 1935, Antonin Artaud avait trouvé cette fameuse canne vernie en rouge, couverte de 13 nœuds hérissés de pointes, qui venait de la fille d'un sorcier savoyard.
Oui.
Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est pour ça que je vous lis, pour montrer aux auditeurs que n'y a pas qu'une phrase, il y a tout oui, un oui, imaginaire. En fait, ouais. Vous ouvrez des portes de l'imaginaire sans arrêt. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles.
Oh, super.
Non, mais et le 14e, donc vous l'aimez beaucoup. Voilà.
Oui, oui, tout le livre termine dans le 14e. Et un 14e, le 14e des visionnaires, des peintres. On a cette galerie qui n'existe plus aujourd'hui.
La rue Daguerre.
Voilà, qui était vraiment présent dans la rue Daguerre de toute façon, qui est une, qui est une rue dense, mais aussi d'autres grandes figures de visionnaires du 14e qui font des membres du Grand Jeu, Roger Gilbert Lecomte en particulier, aussi un peu René Dommal, jusqu'à des peintres et dessinateurs visionnaires comme Nicolas Ekelec, qui ont fait toutes les grandes images, couvertures, etc. des années 70, 80, 90. Donc,
c'est pas aussi Agnès Varda, rue Daguerre
Si, je crois qu'elle y était aussi. Oui,
sa
oui,
fameuse
tout à fait.
Maison qu'on voit. Qui est...
Mais oui, absolument.
Et je crois qu'elle l'a filmée d'ailleurs, je pense qu'il y a un film sur la fameuse rue Daguerre. Mais on sent que voilà, vous êtes...
À fond avec le 14e aussi. Oui, comme ça. Voilà, donc en effet, je bitch sur le Louvre et sur les Champs-Élysées, mais je dis du bien d'autres quartiers quand même.
Oui, et puis il y a plein de... En fait, à chaque fois, on découvre... Là, on n'a pas tout dit, mais c'est vrai qu'entre les squares, les impasses, vos photos... Pas comme
oui.
C'est vos photos.
Oh, c'est pas vraiment des photos.
Mais c'est des photos de prises comme ça au
voilà.
vol.
Voilà, c'est ça, c'est des photos au vol. C'est pas des photos de photographes. Mais quoi, c'est quelque chose que permettait un livre au Seuil. Voilà, ça c'est une petite chose quand même. C'est un livre qui est édité par le Seuil et le Seuil a cette spécificité de publier des livres dans lesquels, dans le corps du texte, il peut y avoir des petites images et ils savent faire ça. Ils savent les imprimer, ils savent les maqueter, ils savent le diriger, ils ont quelqu'un qui s'en occupe. Et donc, du coup, c'était un livre pour le Seuil et avec l'éditeur, on a décidé que je mettrais des petites photos. Même si moi, je fais jamais ça dans les autres livres, ça c'est unique pour celui-là. Mais ça s'y prêtait très bien. Ça s'y prêtait très, très bien parce que en se baladant dans Paris, surtout que ça allait être souvent, j'allais parler de graffiti même.
Oui,
je parle de graffiti.
Oui.
Beaucoup. Le graffiti va disparaître, donc autant garder une trace par la photo. Oui, même des choses gravées, des choses inscrites sur la poussière de la vitre. Mais c'est encore présent aujourd'hui. Ça, c'est rue des Trois Portes. C'est deux images faites de Choron et de Cavana, chacun juste après la mort de l'autre, par un inconnu, une personne qu'on connaît pas du tout, mais qui est quand même rentrée à l'intérieur de l'immeuble, dans le local poubelle, et qui a fait des dessins, un dessin Choron me manque, un dessin Je t'aime Cavana. Et les deux sont restés. Choron, il est mort il y a 15 ans. La trace qu'il a faite il y a 15 ans, dans la poussière même, elle n'est jamais disparue. Et donc la présence de Cavana et de Choron, elle est toujours là, sur la rue des Trois Portes, qu'on le veuille ou non. Ils sont là, ils ne partent pas. Même dans la trace la plus fine, qui est celle d'un doigt dans la poussière d'une vitre.
Donc la trace, ouais. Un peu le pari, un peu à la Brassaille. Enfin,
oui, 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 tout à fait.
Ça,
tout
c'est
à fait.
Ça. Et voilà votre dernière phrase. Paris des profondeurs, tous tes circuits remontent. C'est le dragon qui reprend encore. Réveille-toi, réveille-toi maintenant. Ouais. Réveille-toi.
Oui.
C'est un peu
oui,
comme...
Oui,
vous savez les contes de fées.
Oui.
Est-ce que Paris serait une belle au bois dormant qu'il faudrait réveiller de temps à autre ?
Ouais, un beau dragon au bois dormant.
La photo de couverture, pas comme Thielman.
Elle n'est pas de moi.
Elle n'est pas de vous,
mais elle est très belle.
Et on pense, alors, on voit les ponts de la Seine, mais avec, à travers, c'est comme à travers les ailes d'ailleurs d'une chauve-souris, je ne sais
complètement.
Pas.
Complètement. J'imagine que c'est ça qui leur a plu. Et moi, ça m'a plu aussi, en tout cas. C'est ça qui m'a plu. Elle fait très, on dirait le logo de Batman, en fait, ou le logo du Wu-Tang Clan. Mais ça fait chauve-souris, c'est sous les ponts de Paris, et c'est une photo qu'ils m'ont proposée, je l'ai trouvée très belle, et j'ai dit oui, bien sûr, ça c'est une idée du Seuil, une très bonne idée du Seuil.
Est-ce que vous avez des échos de lecteurs depuis
Oui, quelques-uns.
Des lettres, des gens,
oui.
des Parisiens qui vous écrivent et qui veulent. Voilà, qui ont des réactions
alors,
par rapport à ce livre.
Bien sûr. Alors après, c'est un peu. C'est un peu obscène de. Mais je peux.
Oui.
J'ai eu suffisamment de retours intéressants pour que ça m'ait donné envie de continuer à travailler sur les choses qui ont été évoquées.
Bien sûr.
Donc, bien sûr, j'ai eu des très beaux retours qui vont être enrichissants pour la suite. Je veux dire ça comme ça, parce que je veux pas trop.
Bien sûr. vous aviez pas mal élagué.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais, donc, il y a aussi sur votre bibliothèque, elle ressemble à quoi, pas comptiellement
C'est
quoi c'est...
je ne sais pas. C'est une sculpture en cours de construction.
Bon.
Elle est en travaux, ma bibliothèque.
Elle est en travaux. Alors, il y a une prochaine rencontre, je crois.
Oui.
Alors, il faut que vous nous en parliez.
Alors, j'ai un ciné-club sur le boulevard de Strasbourg, j'en parlais tout à l'heure.
Oui.
17 boulevard de Strasbourg, au cinéma L'Archipel. C'est un dimanche par mois. Et là, c'est ce dimanche-là. Donc, c'est dimanche 29 à 17h. C'est à 17h, les rencontres de Charmel Chic, ou les dimanches de Charmel Chic. Et là, cette fois-ci, ce sera ce sera une spéciale Berroyer, avec la diffusion de son film Veuillez agréer, c'est un film court, Veuillez agréer, et du film de Pascal Bonitzer, Encore, qui était sorti au cinéma au début des années 90 et qui n'est jamais sorti en DVD. Et c'est bien dommage parce que c'est un chef-d'œuvre. Et ensuite, ce sera suivi d'une discussion avec Berroyer et Pascal Bonitzer.
Très bien.
Voilà, c'est ma prochaine rencontre et ça suffit.
Ça suffit. Et vous avez un site internet, je pense.
Alors, en fait, plus exactement, un site m'avait été consacré,
oui,
qui est toujours là, mais qui n'est pas mis à jour depuis plusieurs années.
Bon.
Donc, mais vous pouvez trouver des choses dessus. Mais si vous voulez vraiment savoir, je sais pas quoi, mon actu, bah vous m'écrivez directement. Vous trouvez mon mail, mon mail est sur le site. Vous m'écrivez, puis je vous répondrai aux gens ce qu'ils veulent savoir.
Bon, voilà. Bah merci à vous, Paco Mtielman.
De rien.
Paris des profondeurs, voilà, ça vient de paraître aux éditions du Seuil. J'en profite,
oui,
pour vous annoncer le nouveau numéro de la quinzaine, Lettres, Arts et Idées, dirigé par Patricia Depasse. Ça vient de sortir en kiosque. Donc vous avez un entretien avec Paul Nizon. Paul Nizon, je lui ai consacré une émission récemment. Et puis un très intéressant entretien aussi avec Georges Didi Huberman. Donc, et tout un dossier sur la science-fiction d'Asimov. Et un hommage à Gilbert Lascaux, voilà, que certains ont connu. Un hommage, je crois, avec un extrait, d'un de ses livres de Gilbert Lascaux. Voilà, c'est la quinzaine, Lettres, Arts et Idées, c'est en kiosque. Alors, faut soutenir les revues et n'hésitez pas à l'acheter et à l'offrir à des amis. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez télécharger, podcaster l'émission, comme on dit.
C'est bien.
Et Paco, alors vos projets, vous, ça, je
eh pense... Eh bah, bien, prochain livre, ça sera Infernet, comme la série du même nom que je fais dans le média Blast.
Ouais, vous vous méfiez d'Internet souvent, d'ailleurs.
Ah oui, hein. Beaucoup.
Bah, je vois, vous vous méfiez, vous rigolez d'ailleurs, vous êtes assez taquin dans votre livre. Vous avez beaucoup de distance par rapport justement à ce qui fait écran dans nos vies.
Oui, oui, sans doute.
Hein, merci à vous, Paco Mtielman, pour ce livre que je recommande aux auditeurs et à ceux qui lisent et qui ont beaucoup de curiosité et qui aiment Paris. Merci à Flo Descailloux qui nous a accompagnés et qui va on va avoir la musique de fin.
Alors, la musique de fin est apportée par l'invité. Ça date de 2019 et on va être obligé de la chanter. C'est écrit en grec, MG, alors Inc Orchestra, mais le reste, c'est écrit dans un alphabet que je ne sais pas lire. Vous pouvez dire le titre?
Ah oui, oui, ça s'appelle... en fait, c'est un morceau d'Avin Kang. Et le morceau, en fait, c'est tout simplement... CCC.
Ah,
et
d'accord.
Sur l'album Chirality, mais le morceau lui-même, c'est en anglais, en tout cas, parce que bon, c'est un morceau chanté en anglais, c'est CCC.
D'accord. CCC. On ne pourra pas l'écouter en entier parce qu'il y a les lycéens du LAP qui sont dans l'entrée et qui vont faire l'émission qui suit.
Juste alors, le solo de départ, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le solo d'Evin Kang au début.
Allez, au revoir et à bientôt.
Au revoir.
La fille du roi d'Espagne, 30 jours après qu'on bourlinguait, et du côté des Antilles, le roi le fit pendre au gibet sur la place de Séville. Oh, 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 fallu que taille, Jim à la baille, Merluron, fallu que taille, Jim à la baille, miséricorde au bon garçon.
Of the night.